nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Monsieur le chancelier honoraire Édouard Bonnefous, bonjour.
Bonjour madame.
Merci de nous recevoir dans votre bureau, le bureau de l'Institut de France. Vous nous faites le plaisir d'accepter notre interview, une interview exclusive où vous allez pouvoir nous raconter quelques éléments historiques de personnages, de grands personnages qui ont marqué l'histoire française. Alors, il faut savoir pour les internautes, les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, peut-être pas beaucoup, que vous avez exercé pendant plus de 40 ans une longue carrière politique qui vous a permis de rencontrer beaucoup d'hommes politiques et des gens de ce milieu. Votre père également, qui a été député, je crois, et ministre. Donc on l'a bien compris, le milieu politique tient une grande place dans votre vie, tant avec votre père que pour vous, ensuite votre propre carrière. Et puis également, vous avez été critique de théâtre, critique littéraire, c'est avant bien sûr, avant, ce qui vous a permis de rencontrer des grandes personnes du musical, du monde du spectacle, et puis également du monde de l'aristocratie, et notamment la comtesse Gréful. La comtesse Gréful, c'est peut-être un nom que peu de personnes connaissent, mais qui devrait justement être mieux connu, puisqu'il y a pas mal d'anecdotes assez drôles à son sujet. Comment avez-vous fait la connaissance de la comtesse Gréful, monsieur Édouard Bonnefous?
Pour une façon facile à expliquer, c'est qu'elle recevait le dimanche des gens qu'elle considérait comme ses amis, et mon père était assez lié avec elle, ainsi que ma mère d'ailleurs, et allait le dimanche chez elle. Elle avait un magnifique hôtel rue d'Astorgue, et elle recevait dans cet hôtel, il y avait 5 ou 6 salons qui se suivaient, et elle recevait avec un chapeau sur la tête, dans un salon où il y avait un très beau buste de Houdon. Alors les gens entraient, on lui parlait, et agréablement d'ailleurs, on pouvait lui poser des questions. Et moi, j'étais tout jeune à l'époque, pas 20 ou 22 ans, je lui dis, mais madame, je crois que vous avez bien connu Marcel Proust. Elle me dit, non, je n'ai pas bien connu Marcel Proust. Il a demandé à m'être présenté, et de ce fait, je l'ai vu, mais je ne comprenais pas bien cette réponse. En vérité, j'ai compris après, par la suite, qu'elle n'aimait pas Marcel Proust, parce que Marcel Proust fréquentait assidûment un salon dans lequel le comte Gréful allait régulièrement. Et elle considérait, de ce fait, que Gréful voyait beaucoup Proust et qu'elle ne tenait pas à voir régulièrement Proust. Mais Proust habitait à l'angle de la rue de la Ville-l'Évêque. Or, à cette époque, je parle avant mon époque, les gens avaient des voitures à chevaux qui faisaient un grand effet, avec des cochers, des valets de pied, etc. Et Proust a vécu, au fond, à côté de ces grandes familles, et il a voulu dessiner l'aristocratie des Champs-Élysées, comme c'est dit d'ailleurs dans un de ses livres, parce qu'il voyait peu la vraie aristocratie de Saint-Thomas d'Aquin, du 7e. Il voyait surtout les gens inconnus et élégants du 8e. C'est la raison pour laquelle Madame Gréful exerçait sur lui un pouvoir rayonnant et dont il a tellement parlé, avec admiration d'ailleurs, et quelquefois un peu de critique.
Il était réellement fasciné par la comtesse Gréful.
Il était fasciné parce qu'il considérait qu'elle représentait à la fois le luxe, l'élégance, la beauté et une forme d'intelligence qui l'intéressait beaucoup et qu'elle avait su créer autour d'elle un monde à part avec des familiers qui étaient auprès d'elle.
Il y en a d'ailleurs fait un personnage de l'un de ses livres, la comtesse de Guermantes aurait les traits de la comtesse Gréfulle.
Oui, incontestablement, les personnages dans le monde de Proust, comme on dit, sont des personnages qui ont existé, qu'il a refiguré, ou plus exactement redessiné, dont il a fait des personnages très importants, peut-être plus qu'il ne l'était d'ailleurs en réalité, ces personnages, mais que Proust avait trouvé passionnant pour le monde qu'il avait voulu imaginer.
Et alors vous, Édouard Bonnefousse, que pensiez-vous, ou que pensez-vous maintenant de la comtesse Gréfulle? Quelle est l'image que vous gardez de cette femme qui apparemment avait quand même un pouvoir qui rayonnait vraiment dans le monde, dans la vie mondaine parisienne?
Non, la comtesse Gréfulle était une femme très intéressante parce qu'elle avait su créer autour d'elle un pouvoir rayonnant. On dit que Proust allait la voir entrer à l'opéra parce qu'elle avait beaucoup d'allure. Quand elle a marié sa fille au duc de Gramont, elle descendait la Madeleine et Proust d'ailleurs était là aussi, etc. C'était un personnage qui, par son train de vie et par ses relations, exerçait un pouvoir un peu fascinant à Paris, mais ce n'était pas la seule personne de Paris, il ne faut pas non plus exagérer. Elle était un des éléments importants de la vie parisienne.
Alors, à cette époque de la vie parisienne, c'est l'époque des grands salons. Est-ce que les salons, entre eux, se concurrençaient?
Ah oui, c'est alors... se concurrençaient. Vous aviez Madeleine Le Maire, vous aviez les Rohan, etc. Oui, oui, il y avait des salons nombreux. Il y avait la princesse de Polignac qui avait un salon très important au point de vue musical. Elle a joué un rôle capital puisqu'elle a en fait exercé un pouvoir indirect sur l'évolution de la musique entre 1875 et la période de sa mort, elle est morte à Londres pendant la guerre, en 1954, je crois. Et entre 1875 et 1954, la musique est presque obligatoirement passée par le pouvoir fascinant et puissant financièrement de la princesse de Polignac.
Alors vous, Édouard Bonnefousse, vous arriviez à pouvoir entrer dans tous les salons ou est-ce qu'il y avait parfois des difficultés, justement dues à la concurrence?
Je n'allais pas dans tous les salons pour une bonne raison, c'est que je n'avais pas l'âge à l'époque de pouvoir aller dans tous les salons. J'avais, 18 et 24 ans, mais je connaissais beaucoup de gens, parce que j'avais... J'ai aussi été fasciné par le music hall, le cinéma, le théâtre, et j'étais, dans mes jeunes années, critique de théâtre et de music hall.
Justement, en étant critique de théâtre et de music hall, quels souvenirs vous gardez des nuits parisiennes, puisque finalement c'est le monde de la nuit, le théâtre et le music hall?
Ah, je trouve qu'il y a eu une période à l'époque fascinante au point de vue théâtre et music hall, que nous ne connaissons plus. Parce que je vous citerai 30 noms du music hall qui peut-être ne vous diront plus rien, mais qui exerçaient un pouvoir étonnant. Maurice Chevalier, Grock, Joséphine Baker, etc. Ce sont des noms que je peux vous citer nombreux, mais qui ont exercé un pouvoir incontestable sur leur époque.
Et justement, sur cette époque, est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque des nuits parisiennes, ou est-ce que c'est le temps est venu de passer à autre chose, tout simplement? Êtes-vous nostalgique ou finalement pas vraiment?
Non, je ne suis pas nostalgique. Je constate que le monde est totalement différent, qu'en ce moment, ce qui est important, c'est la Coupe du Monde de football et que les gens sacrifieraient toute leur réception pour aller voir la Coupe du Monde de football, ce qui évidemment était une idée qu'on n'avait pas au début du siècle ou même après la guerre, c'est-à-dire beaucoup plus près de nous. On est devant un monde totalement changé. Les influences ne sont plus les mêmes, les gens importants sont totalement différents et nous nous trouvons, du fait même de la transformation des moyens de communication, de la télévision, de aussi l'autre face par le cinéma, etc., nous trouvons devant un monde complètement différent qui s'intéresse à d'autres choses que ceux dont nous parlons il y a 40 ans, 50 ans.
Alors, un autre personnage assez original à cette époque, c'est un mécène. Il s'appelle c'est le comte de Beaumont. Alors, lui aussi, c'est un personnage au destin un peu particulier. Est-ce que vous l'avez bien connu, cet homme ?
Vous parlez, il y a eu beaucoup de Beaumont. C'est un nom assez répandu.
Étienne et Édith de Beaumont.
Pascal, qui était un de mes amis intimes, Jean de Beaumont, qui était président du Cercle Latéralier, et dont je suis vice-président depuis toujours, et qui était un de mes amis intimes. Et puis il y avait Étienne de Beaumont, c'est une autre branche de la famille Beaumont, qui avait un hôtel près du boulevard des Invalides, et qui a exercé un pouvoir fascinant sur une époque qui est un peu antérieure, et qui donnait des soirées de représentation, où il faisait venir d'ailleurs les gens les plus différents, des gens connus par leur nom, ou des gens connus par leur spectacle, par leur chant, par leur musique, etc.
Alors justement, parmi les grands noms, il y a Cocteau, il y a Satie, des personnes qui participaient à ces réceptions. Et puis, il paraît que le comte Étienne de Beaumont donnait des bals masqués et que tout Paris courait pour participer à ces grands bals masqués. Est-ce que vous en faisiez partie de ces gens-là ?
Oui, j'allais souvent chez Beaumont. Je n'ai pas été à toutes ces réceptions. Mais j'étais dans la dernière partie de sa vie. À cette époque, il donnait des soirées très éclatantes par les gens qui l'y recevaient et les gens qui présentaient les uns aux autres. Notamment, il parle de Proust, qui est venu, il était malade, pas bien. Il est monté dans les chambres. Il s'est reposé, puis il est descendu, et Beaumont lui-même dit, c'est sa dernière soirée, après, il veut disparaître.
Marcel Proust monte dans cette chambre, et Monsieur de Beaumont dit justement qu'il va, il lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Alors est-ce que justement, on arrive à cette période-là où Proust, ce sont les derniers moments de sa vie ?
Non, c'est-à-dire que Beaumont avait souhaité que Proust vienne quand même, il était déjà assez malade. Beaumont lui a dit, mais venez mon cher, il s'est reposé un moment, puis il est descendu à la soirée, puis il est parti, et ça a été en fait une des dernières soirées de Proust, une des dernières soirées à laquelle il a participé. Et Beaumont a exercé un pouvoir rayonnant d'imagination, de création. Il voulait que les gens représentent une époque. Il faisait des déguisements. Il savait organiser autour de sa vie sociale une espèce d'atmosphère de curiosité. Il a très bien réussi, à ce point de vue-là, à recréer un monde qu'on pouvait dire le monde d'Étienne de Beaumont.
On a cette image un peu de jeu. On a l'impression que, en lisant les écrits qu'on peut voir sur sa personnalité, Étienne de Beaumont, qui est quand même un charisme assez important, on a l'impression qu'il est dans un monde de jeu, avec les bals masqués, toujours à vouloir s'intéresser au théâtre, à la danse, au chant.
Oui, ce que vous dites est très juste. Il s'intéressait à créer un monde autour du monde de l'imagination, du théâtre, de la figuration et même du cinéma. Il savait créer un intérêt autour de sa vie sociale et mondaine.
Mais alors, Édouard Bonnefous, on le disait au tout début de cette interview, vous avez également mené une grande carrière politique, qui est quand même pendant plus de 40 ans, vous me le reprécisiez, plus de 40 ans. Quels sont les grands personnages politiques qui restent marqués dans votre esprit ?
Dans mon époque, ça dépend. Mon époque a commencé assez tôt parce que j'étais au cabinet de mon père, et donc j'ai bien connu à l'époque Poincaré, Tardieu, Briand, etc., Barthoux. Et puis moi, mon époque, c'est une toute autre époque, c'est après la guerre. Alors il y a eu bien entendu De Gaulle, mais De Gaulle, il rayonnait, il était au-dessus de la vie parlementaire. Et la vie parlementaire, il y avait des hommes très importants, comme René Meyer, Pleven, Edgar Faure, etc. Je pourrais vous en citer beaucoup, qui ont joué un rôle capital dans les années qui ont suivi la guerre.
Alors, attardons-nous, si vous le voulez bien, sur Raymond Poincaré, qui est entré à l'Académie française par la suite. Et vous l'avez connu au moment où il était président ou bien avant ?
Non, j'ai connu Poincaré parce qu'il était très lié avec ma famille. Madame Poincaré était une amie intime de ma tante, la sœur de mon père, et mon père connaissait beaucoup Poincaré. Il était d'ailleurs très lié avec lui, et c'est de ce fait qu'il a été ensuite choisi par Poincaré pour entrer dans ce gouvernement. Poincaré était un homme éminent qui est entré à l'Académie française, d'ailleurs assez jeune, avant même d'être président de la République, et qui a joué un rôle politique déterminant, notamment dans la Grande Guerre, puisque c'est lui qui a choisi Clémenceau pour être le président du Conseil et le vainqueur de la guerre 14-18.
Un autre personnage que vous avez cité, juste avant de nous parler de Raymond Poincaré, c'est Aristide Briand, qui a été pas moins de 25 fois ministre, 11 fois président du Conseil, donc qui lui aussi a eu beaucoup de mandats politiques. Dans quel contexte vous avez fait sa connaissance ?
Non, moi, personnellement, j'ai pas beaucoup connu Briand. Je l'ai connu un peu quand mon père était son ministre. Mais personnellement, j'allais moins au Parlement à cette époque et j'ai entendu les grands discours de Briand, c'est vrai, sur la paix, notamment la réconciliation franco-allemande. Oui, je l'ai entendu, mais je n'ai pas connu l'homme. Mais c'était un orateur prodigieux. Il y avait avec un sujet, la paix, il pouvait parler trois quarts d'heure d'une façon éblouissante. Mais c'est un homme qui aujourd'hui n'aurait plus sa place dans la politique.
C'était un homme pacifiste qui a d'ailleurs reçu le prix Nobel de la paix en 1926. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a inspiré dans votre propre carrière politique, vous, quand vous avez commencé votre carrière ?
Non, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que son talent n'était peut-être plus de mode à l'époque où je suis entré dans la politique. On était beaucoup plus réaliste et précis. Je n'ai jamais essayé de parler comme Briand. D'ailleurs, je n'y aurais pas réussi. Mais deuxièmement, ce n'était plus du tout le ton. La période où j'étais en politique, c'était d'être précis, d'apporter des faits, de faire réfléchir, pas de séduire, comme était Briand qui charmait, comme un acteur charme. La période que j'ai connue en politique, c'est une période beaucoup plus difficile, d'ailleurs, où il convenait de rallier les gens à un certain nombre de décisions qui étaient souvent difficiles à prendre.
Alors justement, votre période politique à vous débute en 1945-1946, juste après la guerre. Alors, dans ce contexte-là, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour commencer une carrière politique.
Nous avons, à cette époque, obtenu des résultats assez éblouissants, dont on ne parle peut-être plus assez, notamment dans l'Europe. C'est avec Paul Reynaud que j'ai signé au congrès de La Haye, qui était le premier congrès en faveur de l'Europe, la demande de création d'une assemblée politique européenne. Cette assemblée politique européenne, elle s'est constituée petit à petit avec nos efforts, et moi j'étais dans l'équipe qui s'est donné beaucoup à cette époque. Le plus grand, c'était naturellement Winston Churchill, qui avait dans son discours fameux de Zurich lancé l'idée de l'Assemblée européenne. Et puis, c'était tous les hommes qui ont été connus, Spaak, Van der Velde, etc., qui ont joué un rôle capital. Et Paul Reynaud, d'ailleurs, qui a, pendant tout ce qui lui est resté de sa vie, joué un rôle très important pour la création d'une Assemblée européenne, que nous avons fini par obtenir, qui a été les premières assemblées de Strasbourg.
Cette période-là, c'est également l'UDSR. Vous m'en parliez avant que nous débutions cette interview. C'est l'Union démocratique et socialiste des résistants, une union à laquelle vous avez participé.
Ah, mais ça, c'est pas la même chose. L'UDSR, c'était un groupe politique, Union démocratique et socialiste de la résistance, qui s'était créé en 1946, c'est-à-dire au lendemain de la guerre, 45, qui groupait des gens de la résistance, et on en avait fait un groupe au Parlement qui avait gardé ce titre, UDSR, le titre du parti qui était représentatif de la tendance résistance et socialiste, mais pas le parti socialiste. Dans ce groupe, il y a eu Mitterrand, il y a eu Houphouët Boigny, il y a eu beaucoup de députés de l'Afrique, il y a eu Pleven, il y a eu moi-même, etc. Voilà, c'est ça l'UDSR. C'était un groupe politique après la guerre qui a existé dans le Parlement pendant près de 15 ans, 20 ans. Pour moi, j'ai changé de lieu politique puisque j'étais à l'Assemblée nationale pendant 15 ans, je crois 12 ans, je ne me rappelle plus exactement, et je me suis présenté au Sénat où je suis resté 27 ans. Et donc à ce moment-là, j'ai été préoccupé par les grands problèmes de l'aménagement de l'après-guerre, et c'est à la commission des finances du Sénat qui a joué un rôle capital, dont j'étais le président pendant de longues années au Sénat, mais plus à l'Assemblée.
C'est à ce moment-là que vous avez commencé aussi à vous préoccuper des questions d'environnement ?
Ah, ça c'est une toute autre question. Les questions de l'environnement m'ont été inspirées, je ne le cache pas, par Rostand, le fils d'Edmond. Rostand me dit un jour, écoutez, vous êtes jeune, donc c'est il y a bien longtemps, vous devriez parler de l'environnement. C'est le grand sujet de demain. Rostand habitait d'ailleurs dans mon département à Ville-d'Avray. Et alors je dis à Rostand, écoutez, moi je veux bien, mais vous voulez que je fasse un livre. Alors qu'est-ce que vous faites pour que je fasse ce livre? Il me dit, je fais la préface. Alors ça m'a fait réfléchir, j'ai dit une préface de Rostand, c'est intéressant, et c'est là où j'ai créé la première idée d'écrire sur l'environnement.
Et après donc vous avez suivi?
Et puis après j'ai suivi ces questions toujours avec intérêt, j'ai même créé à l'Institut le prix de l'environnement, etc.
Votre prix Édouard Bonnefous a été remis très récemment?
C'est un sujet passionnant qui d'ailleurs commence à intéresser beaucoup l'opinion et qui est un sujet nouveau. qui ne s'est pas posé il y a 40 ans, évidemment, qui s'est posé pour la première fois, oui, il y a 30 ans, 25 à 30 ans.
Mais alors, aujourd'hui, pour terminer notre interview, aujourd'hui, vous êtes chancelier honoraire de l'Institut, ce qui signifie qu'avant, vous étiez chancelier honoraire. Quels sont les changements à partir du moment où vous avez accédé ici à la place de chancelier, quels ont été les changements entre votre rôle politique et là, maintenant, en étant à l'Institut de France, Édouard Bonnefous?
Les changements à l'Institut, il n'y en a pas beaucoup, parce que l'Institut est une très vieille maison, très importante, composée de gens très éminents, dans toutes les directions d'ailleurs, car les sciences, les inscriptions et belles-lettres, les beaux-arts, les sciences morales, la française, bien entendu, constituent l'Institut, qui est une organisation exceptionnelle, qui n'existe pas ailleurs. Il y a dans d'autres pays des académies, mais un institut qui regroupe les différentes académies, ça n'existe pas ailleurs.
Entre vos fonctions politiques, que vous avez exercées pendant plus de 40 ans, et puis ensuite, votre fonction ici, de chancelier, quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une grande différence entre avoir des fonctions politiques et travailler ici en tant que chancelier de l'Institut?
Ça n'a aucun rapport. Parce que d'abord, le chancelier n'a pas manifesté d'opinion politique et il ne doit pas en avoir. Et deuxièmement, le chancelier a à voir l'évolution de l'Institut dans sa diversité et suivant les problèmes qui se posent d'une grande maison composée de gens éminents qui ont chacun une grande carrière. C'est très flatteur d'être chancelier et on est très peu nombreux à l'avoir été, mais on peut dire qu'en général, la marche de l'Institut est profondément réconfortante parce que ça reste un grand foyer de la pensée, un grand centre intellectuel qui représente toutes les formes de l'activité de l'esprit.
Merci, monsieur le chancelier honoraire, de nous avoir reçus dans votre bureau, au bureau donc de l'Institut de France. Je précise pour les auditeurs qui nous écoutent que pour en savoir plus sur les grands personnages que vous avez rencontrés, Canal Academy leur conseille de lire votre ouvrage « Avant l'oubli » qui se constitue de 3 tomes et dans lesquels on peut retrouver beaucoup de grands personnages historiques dont vous avez croisé l'itinéraire. Merci, Édouard Bonnefous de nous avoir reçus. Au revoir.